Voilà, donc je crois que vous avez beaucoup réfléchi à la question du clonage, clonage expérimental, clonage reproductif. Enfin, j'aimerais que vous puissiez nous en dire quelques mots. Déjà pour savoir si c'est une... on a beaucoup parlé de Dolly et des avancées récentes dans ce domaine. Si c'est quelque chose qui est à portée de main ou qui en fait est quand même malgré tout plus lointain.
Il y a tout d'abord donc le clonage dont la finalité est de préparer un médicament que l'on appelle le clonage thérapeutique. Il s'agit d'un clonage qui va fabriquer un embryon, copie d'une personne adulte, non pas dans l'optique de faire un bébé, mais véritablement pour en tirer un médicament. Et puis il y a le clonage qui est le clonage reproductif. Le but là est vraiment de faire un petit bébé, d'avoir une autre forme de reproduction. Alors si on voulait développer, ce serait le clonage embryonnaire à visée reproductive. Et j'imagine que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est avant tout du clonage reproductif. À partir d'un adulte, parce que autrement les problèmes moraux, les problèmes même psychanalytiques sont tout à fait différents. La grande différence qu'il y aurait entre deux personnes qui naîtraient par clonage, par gémilité provoquée en quelque sorte, faire des vrais jumeaux qui sont des clones, ou bien par reproduction par clonage d'une personne adulte, c'est que dans un premier cas, entre ces personnes identiques, il n'y aurait pas de lien de dépendance. Aucune d'entre elles n'aurait voulu l'autre. De la même manière que deux jumeaux sont certainement génétiquement identiques, ils vont par ailleurs évoluer leur personnalité suivant leur histoire propre, et chacun sait que ce sont des personnes qui ne sont pas stigmatisées comme étant l'alpha et l'oméga de la même réalité. Ce sont vraiment deux personnes, mais ils n'ont pas de lien de dépendance. Il n'y a pas la volonté de l'un qui a imposé que l'autre soit sa copie génétique. Alors que dans l'autre...
Ils sont tous les deux pris dans un désir d'enfant, dans une relation sexuelle à l'origine.
Tout à fait. Mais ça n'est pas un argument fondamental, car nous verrons que l'un des moteurs très importants qui peut conduire au clonage reproductif est également un désir d'enfant, y compris un désir d'enfant dans le cadre du couple, en définitive. Donc je crois que cet argument, il faut être tout à fait précis, n'est probablement pas celui qui va permettre de résumer en tout cas les situations. Alors, dans l'autre cas, naturellement, si je crée mon fils jumeau, pour des raisons dont on va rediscuter, j'ai décidé qu'un enfant va naître qui a beaucoup de mes traits, de mes caractéristiques. Et là, il y a un lien de voulu à voulant, un lien de ce point de vue-là, en tout cas de suggestion. Alors, où en est-on d'un point de vue technique? Depuis Dolly, chez les animaux, les choses se sont beaucoup... Je vais dire améliorer, mais ça n'est pas un jugement de valeur, naturellement. Se sont beaucoup perfectionnés quant au pourcentage de succès. Dolly était le résultat d'un succès sur 276 tentatives, alors que récemment, on est parvenu chez des bovins à obtenir à peu près la même fréquence de gestation en créant des embryons par clonage ou bien en les créant par fécondation classique. Donc vous voyez que les progrès sont extraordinaires. Il demeure chez l'animal. Donc il y a trois espèces de mammifères chez lesquelles on a aujourd'hui réussi à des clones. Les souris, les brebis et les bovins. Et pour d'autres animaux, ça semble un peu plus difficile. Il persiste une difficulté tout à fait importante, c'est que la mortalité pré- et post-natale est importante. Il y a manifestement, alors que le développement semble se dérouler à peu près normalement, il y a certaines anomalies immunitaires, cardiaques, etc., qui expliquent que entre 30 et 50% des produits embryonnaires fœtaux résultant de cette technique ne sont pas viables à long terme, meurent avant la parturition ou bien après. Alors maintenant, si on applique ça aux hommes et aux femmes, est-ce que techniquement ce serait envisageable? Il n'y a aucune raison de penser que le mammifère humain soit de ce point de vue-là plus réfractaire à l'application de la technique que les mammifères non humains. Est-ce que ce serait aisé? La réponse est non. Pour des raisons, dans une société démocratique qui a tout de même le souci moral, on ne se lancerait pas dans une entreprise dont on sait très bien que dans 30 à 50% des cas, elle risque d'aboutir à une mortalité de l'enfant qui naîtrait de cela avant ou après la naissance, mortalité postnatale ou prénatale. Voilà à peu près où on en est.
Mais vous pensez que c'est ce risque de mortalité périnatale accrue qui limite la motivation à entrer dans le développement de cette technique?
Moi, j'espère bien que ce qui limite avant tout l'hésitation à entrer dans cette technique sont des arguments moraux. Mais en réalité, pour tout le courant qui considère que le clonage reproductif est moralement légitime, ce qui motive effectivement l'appel à un moratoire, c'est cela. C'est que même, je parle des gens sérieux, il y a des gens qui ne le sont pas du tout, mais on va simplement parler dans cet entretien de gens sérieux. Ces gens sérieux, tout le courant utilitariste conséquentialiste, par exemple, qui considère qu'il n'y a vraiment pas d'obstacle moral à faire cela, sait très bien que, y compris d'après les bases de l'éthique utilitariste conséquentialiste, on ne va pas créer un enfant qui serait dans la moitié des cas programmé pour souffrir et pour mourir. D'après l'utilitarisme à la Jeremy Bentham, la moralité d'une action se définit en fonction de son utilité pour augmenter le plaisir, la jouissance et diminuer le déplaisir et la douleur. Si on faisait un enfant qui devait mourir rapidement, naturellement on créerait du déplaisir et de la douleur. Donc cela va à l'encontre de cette morale utilitariste qui demande un moratoire pour essayer d'améliorer les performances et d'évaluer réellement ce que l'on peut faire.
À propos de l'identité ou non du patrimoine génétique des clones, j'ai vaguement dans l'idée, mais peut-être je me trompe, que même quand on a exactement le même ensemble de patrimoine génétique, l'ordre des gènes selon des chromosomes peut avoir éventuellement une influence sur l'expression de ces différents gènes. Or, si j'ai bien compris, si j'ai de bons souvenirs de biologie, au fil des crossing-over, aussi bien chez les jumeaux monozygotes d'ailleurs, dont quand même il y a 15 ou 20% de destins différents du point de vue psychopathologique, au fil des méioses, des mitoses, des crossing-over, même un patrimoine génétique égal de départ, on peut se retrouver, je crois, avec des enchaînements de gènes qui, linéairement, ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est une source de différence, ça,
C'est pas une source de différence, parce que dans le clonage par transfert nucléaire, il n'y a pas de crossing-over, il n'y a pas de méiose. Le crossing-over se fait à la méiose, et la grande caractéristique de la création d'un bébé par clonage embryonnaire, c'est de mettre une cellule somatique diploïde qui a 2N chromosomes dans un ovocyte, et donc de contourner la phase indispensable qui est la phase de la réduction de moitié du patrimoine chromosomique, cellule haploïde, caractéristique des gamètes, qui est ce qu'on appelle la méiose, qui est la phase au cours de laquelle se produisent les crossing-over. Donc là, réellement, et pour ce qui est du jumeau, il y a eu un crossing-over pour créer l'œuf, mais comme le jumeau est une scission de l'embryon, de la même manière, ce sont des vrais clones, l'ordonnancement, l'ordre de leur chromosome est identique.
Alors, dans les divisions cellulaires ultérieures, il n'y a plus de crossing-over.
Non, absolument pas. Le crossing-over est un phénomène qui ne se passe qu'à la méiose.
Alors, pour continuer à réfléchir justement sur ces enjeux éthiques, je voulais vous poser peut-être une question un peu paradoxale, parce que, en fait, quand on pense à deux sujets clonés, qui ont donc exactement le même patrimoine génétique, nous, du point de vue psychiatrique ou psychanalytique, on se dit que deux individus, même s'ils ont exactement le même patrimoine génétique, vont être pris dans des histoires différentes, n'occupent pas la même place exactement dans l'imaginaire de leurs parents, vont avoir un système interactif précoce probablement différent, comme on l'a montré chez les jumeaux monozygotes, et au bout du compte, ne seront pas identiques. Et on se dit, au fond, est-ce qu'il y a vraiment à craindre autant que cela ce fantasme du même?
Je crois que le fantasme du même est un fantasme. Donc, il faudrait craindre qu'on puisse le craindre, c'est-à-dire que l'on puisse réellement fonder sa réflexion sur ce qui est fantasmagorique. En effet, les relations entre une mère et sa fille jumelle, entre un père et son fils jumeau, sont des relations qui sont un peu moins proche quant à la ressemblance et quant à la ressemblance psychique, quant à l'histoire personnelle que celle entre deux jumeaux. Deux jumeaux ont le même âge, vivent souvent dans le même contexte familial, dans le même contexte culturel, historique, alors que là, ces personnes qui, génétiquement, à peu de choses près, seraient à peu près aussi équivalentes que deux jumeaux, peut-être même un peu moins pour des raisons dans le détail desquelles je n'entrerai pas, de plus, aurait une histoire qui serait décalée dans le temps, c'est-à-dire également dans la culture, dans l'éducation, dans le monde, dans la société. Et donc, ce serait encore plus que deux jumeaux monozygotes, deux personnalités parfaitement différentes. Une fois que l'on a dit cela, et il est fondamental de dire cela, il ne faut pas en tirer la conclusion que dès lors, l'on peut s'arrêter de discuter, puisque cela permet de balayer tout souci éthique quant à l'application de cette technique. Il y a un problème qui est tout à fait important, je crois, qui est celle des limites de l'intervention parentale dans le choix des caractéristiques de l'enfant. Ça commence par le choix du sexe. Est-ce qu'il est éthiquement acceptable que des parents décident d'avoir un garçon ou une fille ? C'est un problème qui est très fondamental. Les parents décident d'avoir un enfant et ils en prennent la décision. S'ils ne veulent pas avoir d'enfant, surtout aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfant. Donc ils décident d'avoir un enfant. Cet enfant, ils ont le devoir de lui assurer des conditions matérielles et psychologiques d'une vie et d'un épanouissement le plus harmonieux possible. Mais qu'est-ce que c'est qu'un développement harmonieux aujourd'hui, d'aujourd'hui, hier, demain? C'est un développement qui permettra à cet enfant d'évoluer vers sa vie adulte, d'homme complètement libre, de personne autre, c'est-à-dire qui est basé véritablement dans la reconnaissance vraiment fondamentale de l'altérité de l'enfant. Et d'une certaine manière, de quel droit les parents vont-ils décider que cet enfant doit avoir ce sexe-là? Est-ce qu'on n'est pas déjà à ce moment-là, au-delà des limites de la permission de l'interventionnisme parental? C'est une question importante. Moi, je le crois. Cette question est encore en discussion. Mais en revanche, quand on parle d'une intervention plus importante, telle qu'avec les tests génétiques, l'on se mettrait à choisir l'âge de la calvitie, la couleur des yeux, la taille, la force, le sexe et bien d'autres choses encore, le choix de l'enfant au magasin des enfants, pour reprendre l'expression de Jacques Testard, il y a à peu près un consensus des éthiciens pour dire que ce serait éthiquement inacceptable, parce que cela serait une appropriation de la personne irréductible aux parents qu'est l'enfant par ses parents, qui serait une négation tout à fait évidente de sa liberté. Avec le clonage, on va bien au-delà de cela. La personne qui décide d'avoir un enfant par ce procédé connaît son sexe, connaît la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, connaît énormément de choses de ses caractéristiques et de sa forme. Rien que de sa forme, plus que de sa forme en réalité, parce qu'il y a également des traits de caractère, on le sait bien, qui sont organiquement déterminés. Mais même de la forme, l'assujettissement, il commence par la forme, bien évidemment. Les exemples en sont nombreux. Les contes de fées et, je dois dire aussi d'ailleurs, les ballets classiques sont pleins des fées ou bien des mauvais génies, des sorciers qui assujettissent des victimes en les transformant. Dans le lac des cygnes, par exemple, le méchant sorcier, il transforme la princesse en cygne. La princesse continue de pouvoir aimer, elle n'est assujettie que par la forme. Elle est complètement assujettie. Je dirais même plus que l'assujettissement commence quand un adjudant commande à des hommes comment ils doivent s'habiller. C'est un assujettissement. Et voilà.
On n'a pas réussi à l'interdire encore.
On n'a pas réussi encore à l'interdire, encore que le service militaire n'est pas tellement bien vu et que l'uniforme a été supprimé dans tous les lycées. C'est-à-dire qu'il y a un progrès. Et voilà que l'on réintroduirait ce droit absolument extraordinaire d'une personne de décider de tant des caractéristiques, notamment de son enveloppe extérieure, d'un enfant à naître. Je veux dire que, quand bien même on a considéré qu'effectivement ces personnes sont des personnes différentes, il y a là un problème qui est sérieux. Alors, un autre problème qui ne va pas laisser indifférent, j'imagine, l'homme de terrain, le psychanalyste que vous êtes, c'est celui des conditions de l'épanouissement dans le cadre de la relation parent-enfant. Vous savez très bien, je crois, dans votre pratique, plus que dans la mienne, qu'il y a des situations qui sont anxiogènes, des situations qui, d'une certaine manière, remplissent vos cabinets d'attente. C'est l'enfant de remplacement. C'est plus dur d'être un enfant de remplacement que de ne pas l'être. Les vrais jumeaux univitellins, souvent, ont des petites difficultés de positionnement. Ça, chacun le sait. Et ce sont les parents abusifs. C'est-à-dire les parents qui empêchent l'épanouissement vers cette phase de la liberté, de la plénitude d'acquisition, de sa liberté d'autres personnes qui peut éventuellement retourner vers ses parents à égalité de devoirs et de droits. Avec l'enfant cloné, on risquerait de cumuler les trois risques. C'est-à-dire que cet enfant qui est l'image corporelle d'une autre personne, aurait un peu de difficulté réellement à couper le cordon ombilical. Copie d'une vie, copie ne serait-ce d'ailleurs que somatique, que ne serait-ce que corporelle, d'une vie ayant déjà été vécue, oscillant entre la nécessité de s'opposer en tout pour exister, ou au contraire de mimer cette vie ayant déjà été vécu, il aurait un cheminement vers sa liberté quelque peu handicapé. Par ailleurs, il serait clairement l'enfant de remplacement, tout à fait. Et il aurait un jumeau décalé dans le temps, mais un jumeau. Ben moi, personnellement, je vais vous dire, je ne prendrais pas le risque de permettre à un enfant de croître dans ces conditions-là.
Actuellement, vous pensez qu'il y a des chances raisonnables que des positions éthiques internationales soient prises sur cette question, ou d'une part, et même si elles sont prises, est-ce qu'elles suffiront, vous pensez, à empêcher telle ou telle équipe de se lancer dans l'aventure ?
Je crois qu'il faut fixer des enjeux. Il y aura des clones humains, aucun doute, et il y en aura dans les 20 ans qui viennent, aucun doute. L'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu est de savoir s'ils naîtront dans la transgression ou bien ils naîtront après la légitimation par la société qu'il est légitime dans telle ou telle indication de recourir à ces techniques. C'est ça l'enjeu, c'est le seul enjeu qui persiste aujourd'hui. La demande, les mécanismes psychologiques conduisant à la demande sont d'une force telle, et par conséquent les intérêts économiques sont tellement prégnants, que on sait bien qu'il y aura des clones humains qui naîtront. Est-ce que nos sociétés vont arriver, après que le débat démocratique se sera développé, à légitimer cela ? La chose est incertaine. Aujourd'hui, on aurait plutôt l'impression que non, puisque même l'Assemblée générale de l'ONU a décidé, et ça c'est à peu près unique, que la réduction de l'homme à son patrimoine génétique était impossible, et dans ce cadre-là, on a rajouté au dernier moment un article disant que le clonage était une atteinte aux droits de l'homme. Et donc c'est vraiment un fait historique que l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'occupe plus de problèmes d'esclavage, de liberté, s'occupe de cela. Je crois que c'est important parce que je crois que ça en appelle vraiment aux droits de l'homme. C'est tout à fait important. Voilà. Il n'empêche que aujourd'hui, il y a des courants philosophiques extraordinairement forts qui ne s'opposent pas moralement au clonage. Il faut rappeler un peu les données du problème, pas au niveau religieux parce que les choses sont un peu confuses. Au niveau religieux, pour en dire un mot tout de même, la seule position qui est parfaitement claire, c'est la position catholique, chrétienne en général, mais surtout catholique. Si Dieu a créé l'homme à son image, il est tout de même inconcevable qu'un autre homme fasse la même chose. Donc, c'est vraiment d'une impiété totale. C'est véritablement l'infamie absolue d'imaginer que l'on peut recourir au clonage. En revanche, la religion juive, par exemple, considère que ce que l'homme sait faire et apprend à savoir faire ne saurait être intrinsèquement mauvais. Et si l'homme apprend à pouvoir cloner, c'est que Dieu lui a permis d'acquérir ce savoir-là et de se familiariser avec cette technique-là. Et tout dépend de ce à quoi on l'applique. Et aujourd'hui, probablement dans le monde, le pays qui est le plus réceptif à la légitimation morale du clonage, c'est Israël, aussi bien par ses rabbins que par ses scientifiques comme Michel Revel, qui fait une campagne importante pour dire que c'est tout à fait légitime. Mais même en dehors de ces considérations religieuses, il y a deux grands courants un peu qui s'affrontent et qui résument, je résume, elle est beaucoup plus riche que cela, mais autour desquels s'articule le débat éthique, on va dire les références kantiennes et l'utilitarisme-conséquentialisme. L'utilitarisme-conséquentialisme, donc c'est les philosophies qui viennent de David Hume, Jeremy Bentham, Bertrand Russell, plus récemment Stuart Mill, qui considèrent que l'appréciation des bases de la légitime morale d'une action dépendent véritablement de l'utilité de cette action pour diminuer la douleur globale et individuelle et pour maximiser le bonheur et la jouissance. À l'aune de cette appréciation, que va-t-on dire ? On va dire si véritablement le clonage répond au désir extrêmement douloureux d'enfants d'un couple stérile qui ne peut recourir à d'autres moyens. Si le clonage permet à un couple qui vient de perdre son enfant, lui permet de faire renaître le même 9 mois après et de voir sa détresse atténuée, Pourquoi pas moralement? Naturellement, il faut un moratoire. Il faut un moratoire parce que il faut veiller à ce que cet enfant soit bien. Il faut vraiment vérifier qu'on ne va pas créer un enfant extrêmement fragile qui va rapidement mourir, plongeant tout le monde, l'enfant et ses parents, dans le désespoir. Mais si vraiment on arrive à maîtriser ces techniques, si ça marche bien, en d'autres termes, pourquoi pas? Et ce courant, il est très fort. Il est très très fort. Il est presque majoritaire dans le monde scientifique anglais et il est très très fort dans le monde américain, naturellement. Alors, en face, il y a l'appel à la référence kantienne qui consiste à dire, n'est-il pas indigne du respect que l'on doit à la dignité humaine de recourir à cela? Les bases de ce discours sont les suivantes. De quel droit, réellement, va-t-on légitimer dans notre société cette division possible des citoyens entre les citoyens voulant que quelqu'un naisse qui leur ressemble, dont ils connaissent tant de caractéristiques, et les citoyens voulus? Est-il même envisageable réellement de s'engager dans un système tel qu'il y aurait au départ, de manière constitutive en quelque sorte, un assujettissement des citoyens à certains autres? La même démarche dit quelle est véritablement la place de l'altérité dans la filiation. Moi, je crois personnellement qu'elle est tout à fait fondamentale et que le monde de l'homme commence par deux hommes différents. J'imagine qu'il est en plus probablement plus difficile de s'humaniser avec son jumeau univitellin, qu'il doit être plus facile de s'humaniser avec une personne qui est encore plus différente que ce par quoi elle a acquis des éléments de son histoire qui marquent cette différence. Or, ce qui est fantastique dans le couple, c'est qu'il y a un homme, une femme, qui sont vraiment deux personnes différentes, qui se mettent à deux pour faire une troisième personne différente. Et comme on en parlait tout à l'heure, le but réellement de l'éducation, c'est de valoriser cette différence. C'est-à-dire de permettre à cet enfant, au maximum, de faire valoir tout ce en quoi il est une personne parfaitement irréductible à tous ses frères et puis à ses parents. Et cette qualité de l'altérité, qui pour moi est à la base de la filiation, est extraordinairement valorisée, elle est magnifiée lorsque l'on fait le deuil de la filiation biologique. Lorsqu'un couple stérile adopte un enfant, l'enfant sera l'enfant par le cœur, par la transmission de valeurs, par le désir de créer cette communauté en dehors des liens du sang, ou alors lorsque un homme stérile consent à ce que sa femme soit fécondée avec un sperme de donneur. Dans ces conditions-là, que l'homme en soit amené à ne plus pouvoir s'imaginer comme fils à aimer que son double génétique me semble vraiment une régression narcissique de ce caractère lumineux de l'altérité dans la filiation qui est effectivement du domaine d'un recul de civilisation.
C'est-à-dire que ce sur quoi vous insistez bien, c'est que sur le fait qu'un clone peut être pris comme n'importe quel enfant ou n'importe quel jumeau dans un désir d'enfant, bien sûr, on ira à son origine, mais que c'est bien sûr la relation sexuelle, le couple mère-père-mère qui est absent là, qui pose problème.
Ce n'est pas simplement le couple père-mère. Je veux dire, là où il faut vraiment affiner la réflexion, c'est que la première demande du clonage, c'est les couples avec un homme stérile. Un homme stérile ou alors un couple homosexuel de deux femmes où la personne jouant le rôle du mâle dans la relation est évidemment génétiquement une femme et ne peut pas procréer avec sa compagne.
Il n'y a pas de relation sexuelle fécondante.
Oui, mais on n'est pas très loin tout de même. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La fécondation in vitro non plus, il n'y a pas de relation sexuelle fécondante. Et je n'ai vraiment rien contre la fécondation in vitro. Donc, il faut bien voir que dans ces cas-là, le clonage est effectivement un moyen d'avoir un enfant du couple. Un enfant qui est acceptable et qui est d'une certaine manière assez facilement appropriable par le couple. En effet, cette femme, dans le cas d'un homme stérile, cette femme va donner son ovocyte. On enlèvera le noyau de cet ovocyte, on y mettra le noyau d'une cellule de la peau de son conjoint. Cet ovocyte va être mis dans son ventre, elle va être enceinte, elle va nourrir en son sein cet enfant, elle va en accoucher. Ce sera son enfant, naturellement. Ses gamètes, son ventre, l'accouchement, elle le nourrira, ce sera son enfant. Et ce sera l'enfant du conjoint. puisqu'il aura les gènes du conjoint. Ce sera un peu plus que d'habitude, mais ce sera l'enfant du conjoint. Donc, en définitive, ce serait se tromper, je crois très profondément, de dire probablement une des bases de l'inacceptabilité est qu'on se situe ici hors de l'épure d'une volonté bisexuée, volonté de couple, d'avoir un enfant ensemble. Non, c'est pas vrai. On est, à vrai dire, à l'extrême de la volonté d'un couple stérile, mais ça fait bien longtemps que ces couples stériles peuvent avoir des enfants en dehors de la relation sexuelle. Ça serait un exemple de plus, si vous voulez, d'avoir des enfants qui soient des enfants biologiquement ou bien organiquement appropriables par l'un et par l'autre.
Alors, si vous deviez résumer le thème fort de l'inacceptabilité du clonage humain, ce serait...
Le thème fort de l'inacceptabilité, je crois qu'il y en a trois, vraiment. C'est premièrement, l'enfant à la carte. Je veux dire que la liberté des parents ne va pas jusqu'à déterminer quelles doivent être tant de caractéristiques, même que physiques, mais en plus que physiques, mais même que physiques de l'enfant. Je veux dire, il en va vraiment d'un problème de droit de l'homme. C'est le droit d'une personne de n'avoir pas été voulue telle qu'elle est, telle qu'elle semble aux autres, par une tierce personne, premièrement. Deuxièmement, c'est vraiment la valeur de l'altérité et ce qui permet de faire valoir cette altérité au sein du couple. Et troisièmement, il s'agit des conditions dans lesquelles un enfant qui naîtrait ainsi, avec les handicaps constitutifs, aurait le plus de malchance de ne pas évoluer librement vers son épanouissement.
Monsieur Kahn, je vous remercie infiniment.